La diligence de Lyon. Il y a 30 ans, ou pas davantage, un des quartiers les plus sales, les plus ignobles, les plus tortueux de Paris s'étalait comme une plaie gangréneuse en pleine place du Carrousel, en face des Tuileries. On vivait alors sous le règne bourgeois et paternel de Louis-Philippe. La place du Carrousel elle-même n'était qu'une steppe boueuse et sombre, au centre de laquelle s'élevait un réverbère isolé dont les maigres rayons étaient la nuit dévorés par une ombre sinistre. Du côté du Louvre et du Palais-Royal, depuis le quai de la Seine jusqu'au Théâtre-Français, grouillait tout un amas d'échoppes sordides. C'étaient des masures croulantes, plantées à la diable, sans alignement, sans méthode, et laissant entre elles d'étroites ruelles où les ordures s'entassaient. Ce labyrinthe se tordait en circuit, revenant sur eux-mêmes. Bref, ce coin de Paris semblait s'être pétrifié depuis 200 ans dans une boue conservatrice. Le soir, des chandelles ou des quinquets s'allumaient derrière les vitres à tête de ces échoppes qui affirmaient alors leur spécialité de cabaret, de tripot ou de maison galante. Les filles y pullulaient, mais quelles filles ! On ne pouvait pas leur reprocher de faire le trottoir, car il n'existait pas de trottoir dans ce dédale, moins bien partagé que la cité. Au Carrousel, les dames faisaient le ruisseau. Et si l'on s'étonne de l'état dans lequel la voirie laissait ce point de Paris, j'expliquerai qu'il n'était pas classé, qu'il ne vivait que par grâce, et que depuis 50 ans, il devait disparaître l'année suivante, et qu'on le traitait comme s'il eût déjà disparu. Il fallait avoir le diable au corps, comme nous, pour se hasarder à certaines heures dans cette cour des miracles, où si l'on ne courait plus le risque d'être pendu, on récoltait des querelles, des oriondes ou des caresses plus redoutables encore. Voilà pourquoi c'était amusant d'y aller. Lord Adgerton, qui était très connu dans ce temps-là, et qui avait succédé à Lord Seymour dans la faveur du peuple parisien, Lord Adgerton s'y promenait un soir, désœuvré, repu, et fort ennuyé de sa personne. Il s'était saoulé comme un porc, avait plongé dans les plus honteuses débauches, et, rassasié, dégoûté, en horreur à lui-même, il aspirait au lendemain. Cette idée extraordinaire lui était venue de rentrer chez lui. Mais il n'y avait pas de voiture au Carrousel, et le lord ivre cherchait la place du Théâtre-Français sans y pouvoir arriver. Il tournait sur lui-même, revenait sur ses pas. Avec la lucidité d'un ivrogne, sachant très bien qu'il s'égarait dans un cercle vicieux, mais incapable de l'effort d'esprit nécessaire pour trouver la tangente. Il était tombé plusieurs fois par terre et s'était laborieusement relevé. Gentilhomme, d'ailleurs. Comme il défonçait les murs à intervalles réguliers, ces bons murs qui lui prêtaient appui alors qu'ils avaient tant de peine à se soutenir eux-mêmes, il vit venir à lui une espèce de larve qui suivait également le mur, si bien qu'ils ne pouvaient se manquer de se rencontrer. En effet, un moment après, ils se trouvèrent en contact, en face d'une vitre de taverne qui leur jetait de vagues lueurs. La créature entrevue était une femme. Lord Adgerton en jugea ainsi à certains indices repoussants. Vêtue d'une toilette singulière et malpropre, l'inconnue paraissait avoir une 50aine d'années, elle se traînait avec effort, ses traits étaient bouleversés. Et elle dit au lord : « C'est pas tout ça, j'ai faim. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je suis pas une mendiante, j'ai faim. Et après ? Emmène-moi souper, tu vois que je peux pas me traîner. Tu es bu ? Non, vrai, je suis une femme comme il faut. Tu m'emmènes pas ? Oh, je mets de la vie. Alors prête-moi 20 sous. Moi, je la connais. La malheureuse essaya de se faire prêter 20 sous. Ce qu'elle offrit, ce qu'elle promit pour cela, ne peut se raconter ni se décrire. Elle y engagea son salut, son corps et son âme. Le lord lui répondit : « Oh, tu m'embêtes ! » Ce n'était pas que l'anglais fût avare, au contraire. Il s'était ruiné je ne sais combien de fois. Il mangeait son 4e héritage. Mais cette femme l'agaçait et lui déplaisait. Il s'était buté à ne rien lui donner, et son état d'ébriété augmentait son obstination. Il cherchait à passer outre. L'inconnu l'en empêchait. « Mais tu ne peux pas me refuser, disait-elle, je me meurs. T'as de l'argent dans ta poche, j'en suis sûr, j'entends. Si tu m'écoutes pas, c'est que tu veux me tuer. Bon, ben, je vais aller crever là, derrière toi, sur ce tas d'ordures. Bon, crève, dit le lord. » Il repoussa la pauvresse si rudement qu'elle tomba sur ses genoux. Mais elle s'accrocha aux vêtements de l'anglais d'une façon désespérée. « Ne t'en va pas, criait-elle, le hoquet me prend, le froid me gagne, je mourrai. Oh, je souffre trop. Aussi tout m'est égal, vois-tu, tout tant pis. Bon, tu refuses 20 sous à une femme, toi, alors ? Ah, je sais bien pourquoi. Mais je te reconnais, misérable, tu es Lord Algerton. On t'a tout dit, tu m'as suivi. Et à présent, tu me tiens là, sous tes pieds, à ta merci. Il faut que je marche, n'est-ce pas ? Eh bien, soit. Mais elle devient folle, dit le lord, qui faisait des efforts pour se dégager. Mais je te dis que je consens, scélérat. Je consens, là, est-ce convenu ? Tu me donneras 100 francs et je ferai la diligence de Lyon. « Ah, oh, ça, dit Algerton, hein, tu finis tes girises. Peux-tu me laisser passer, oui ou non ? Mais tu m'as donc pas entendu. La diligence de Lyon, j'ai dit. La diligence de Lyon, la diligence de Lyon. Va te faire foutre, mais pour 100 francs, pour 100 francs. Mais au diable, tu comprends donc pas ? Mais sacré vermine, fit le lord poussé à bout. En envoyant à la malheureuse un coup de pied en pleine poitrine, « Me lâcheras-tu à la fin ?»« Ouf !» fit la pauvre femme en tombant à la renverse. Lord Algerton se sauva. Il trouva un fiacre dans la rue Saint-Honoré et rentra chez lui. Mais il ne put dormir de la nuit. Je connaissais particulièrement le lord pour m'être battu avec lui quelque temps auparavant. Il avait voulu me faire convenir que sa maîtresse, Léonore de l'Opéra, était plus belle que la femme que j'aimais. Chose stupide et déraisonnable, puisqu'il ne savait rien de mes affaires, ni aussi de mes relations. Ma maîtresse, d'ailleurs, c'était Léonore. Aussi ne fus-je pas trop étonné quand, le lendemain de sa promenade au carrousel, je reçus la visite d'Algerton. Il s'excusa de me réveiller si tôt, prétexta d'une insomnie et me demanda une soupe aux harengs à la mode hollandaise pour se dégriser tout à fait. J'eus d'abord envie de l'envoyer coucher. Je me retins. Il circulait dans ma chambre, qu'il arpentait à grands pas. Il ouvrait ou fermait la fenêtre. Il avait l'air d'une âme en peine. Il détraqua ma pendule, soi-disant pour en arranger la sonnerie. Il tira les oreilles de mon chat. Ennuyé de son tric-trac, je me levai pendant qu'il mangeait sa soupe. Il s'avisa tout à coup de me dire d'un air indifférent qu'il était très attaché à Léonore à cause de sa diligence de Lyon. Si quelqu'un connaissait Léonore, c'était moi. Je répondis : « Ah, vous savez sans doute de quoi il s'agit. » Parbleu, Un assez long silence suivit. Ben, j'ai ouï dire, reprit le lord, que la diligence de Lyon variait quelquefois dans l'application comme dans les principes. Rien n'est plus intéressant à étudier que ces nuances-là. Vous me feriez plaisir, certainement, en me disant comment vous l'entendez. Mon Dieu, mon cher lord, cela s'entend tout seul, la diligence de Lyon, c'est la diligence de Lyon. Je vous avoue d'ailleurs qu'il y a si longtemps que je m'en suis occupé que je la confonds peut-être avec autre chose. Convenez, me dit le lord un peu ému, que vous n'avez aucune idée exacte de ce que c'est. Me croyez-vous? Oh, mettez pas d'amour propre. Tenez, je vais tout vous raconter. Lord Algerton me dit alors son histoire de la veille jusque dans ses moindres détails. Il y avait un point dont il ne pouvait revenir. « Comprenez-vous, disait-il, cette coquine qui pour 20 sous offre de décrocher ciel et terre, et qui tout à coup, à propos de rien, parle de 100 francs comme si elle n'avait qu'à se baisser pour les prendre. Elle semblait me faire une grâce, remarquez le bien. Je me souviens de Sabine Ahuri quand elle a vu que je ne me précipitais pas sur la diligence de Lyon. C'est alors que je lui ai flanqué le coup de pied que vous savez. Oh, je vous en blâme. Oh, cela manque totalement de chevalerie, mais j'étais ivre. Et puis la femme était abominable, je sentais mauvais. 100 francs. Ah oui, ce chiffre me trouble. Et vous, mon cher ami, vous avez la plus grande érudition galante de notre siècle, vous qui avez fouillé les coins les plus scandaleux des bibliothèques, vous qui en remontreriez à Rodier, ce bénédictin des chartes amoureuses. Est-il possible que vous ne puissiez rien me dire à ce sujet ? Ben non, rien. Vous avez vu tout à l'heure que j'avais honte de mon ignorance. Avec la meilleure volonté du monde, je ne trouve rien. Rien qui puisse avoir une analogie avec ce nom baroque dans la Grèce, rien dans le Bas-Empire, rien dans la Bible, rien dans l'histoire des voyages. Oh, mais j'en aurais le cœur net. Comment cela ? Bah, tout simplement. Votre héroïne n'est pas introuvable, sans doute, et nous saurons ce soir tout le mystère. Ce soir ? Mais pourquoi attendre ce soir ? Oh, si vous retrouvez auparavant la fille, je le veux bien. Mais ces oiseaux de nuit fuient la clarté du soleil. Je doute que vous la dénichiez dans la journée. Ben, je vais toujours essayer. Bon, bonne chance. Le lord me quitta. Le soir, nous nous revîmes dans un café bound de la place du Carrousel. Je le trouvais plus mélancolique encore que le matin. Nous courûmes les tavernes, les bals, les réunions du quartier, enfin, tous les endroits où nous avions quelque espoir d'avoir des nouvelles de la drôlesse que nous cherchions. Lord Algerton prétendait qu'il la reconnaîtrait à première vue. J'en doutais car il n'était pas de sang-froid quand elle l'avait abordé. Nous nous adressâmes au poste de police, mais le signalement que nous pouvions donner se réduisait à l'âge probable de la femme, à son état de faiblesse, à son costume et au coup de pied qu'elle avait reçu. Aucun agent n'avait relevé de femme malade ou blessée. La victime de la brutalité du lord avait dû se sortir d'affaire toute seule ou être secourue par quelques passants. 8 jours se passèrent en courses infructueuses. J'avais fini par m'intéresser à cette affaire à un point de vue scientifique. Lord Algerton, plus ardent, était livré corps et âme à une obsession tous les jours plus puissante. La lémure du carrousel s'était revêtue pour lui d'un charme occulte et redoutable. Il répétait ses moindres paroles, affirmait qu'elle avait un geste royal et des inflexions altières dans la voix. L'absence la lui transfigurait. Il se reprochait de la façon la plus amère son obstination et sa cruauté stupide. C'est avec une persévérance rare que nous avions colporté dans les milieux les moins avouables, dans les sociétés les plus vulgaires, l'histoire du Lord et ce nom bizarre de diligent de Lyon, dont une misérable vaincue l'avait frappé comme d'une flèche du Parthe. On riait, on haussait les épaules, la plupart concluaient à une plaisanterie ou à une mystification. Non, ce n'était pas mon idée. Le mot avait été dit dans un tel concours de circonstances qu'il fallait le prendre au sérieux. Nous nous résignâmes aux moqueries que nous ne pouvions éviter, et le Lord eut toléré une farce médiocre que lui joua Mademoiselle Suzanne L. des variétés. Cette cocotte de tant de gaieté lui promit de lui dire recta ce que c'était que la diligence de Lyon en échange d'un bracelet de rubis dont elle avait envie. Et quand elle eut le bracelet à son bras, elle dit au Lord ahuri: méfie-toi, c'est du bœuf à la mode. Cette drôlerie d'un goût contestable rendit l'anglais défiant, mais ne le découragea pas. Il avait trop dans la mémoire le regard creux de l'affamée, son regard de flamme et l'accent avec lequel elle avait lancé sa terrible proposition pour se laisser dépister. Nous crûmes bien faire en allant rendre visite à M. Vidocq, qui venait à cette époque de quitter la préfecture et faisait de la police pour le compte des particuliers. Il nous mit en rapport avec un vieil agent, mouchard de qualité, qui nous parut être un homme distingué. Son avis fut que nous avions tort de nous obstiner à découvrir une fille banale, et que nous aurions bien plus de chances d'arriver à la découverte de la vérité en allant la chercher dans les meilleurs puits. Il nous conduisit en effet dans quelques maisons respectables, par leur ancienneté, où nous avions toutes sortes de probabilités d'apprendre ce que nous désirions savoir. Nous fûmes, en général, bien traités dans ces académies qui nous accablèrent de politesse, côté un peu cher. Je me souviens que notre première visite fut pour une aimable femme qui avait tout l'air d'une duchesse de l'Empire, mais qui l'était peut-être. Élevée à Saint-Denis, des revers de fortune l'avaient déclassée. Elle passait pour avoir un esprit encyclopédique et véritablement, nous gagnâmes beaucoup à sa conversation. « Je vous avoue, dit-elle, qu'il m'en coûte de me trouver en défaut en face de gens bien élevés. J'ai non seulement dans mon armoire de fer tous les auteurs qui ont traité de la fanatière et qu'on a imprimé, mais une foule de manuscrits dus aux plumes les plus célèbres. Et je ne pense pas d'ailleurs que chez moi, on n'ait jamais parlé du général Fayolle et de la fanfare du duc d'Aoste. » Je m'interrompis, j'interrompis la dame en ne voulant pas laisser passer cette assertion hardie. Elle s'en faisait à croire. Je développais sur l'origine de la fanfare à laquelle la riche Christine fut si étrangement mêlée des considérations ingénieuses. La noble hôtesse, charmée d'avoir à qui parler, prit un air discret, voulut me prouver que je lui avais inspiré une véritable sympathie. Elle me donna l'adresse d'une bonne vieille dont le nom avait été autrefois célèbre. On l'appelait Madame Malaga, et on la trouvait toute la nuit dans un tapis fort de la cité où elle disait la bonne aventure. Madame Malaga nous accueillit avec grâce, mais comme je lui faisais compliment de ses succès de danseuse dans la troupe de Nicolet, une larme brilla dans ses yeux éteints. « Vous parlez de ma fille, monsieur. »« Mais quel âge avez-vous donc, chère dame ?»« 100 ans. »« Oh, nous ferez-vous l'honneur de souper avec nous ?»« Oh, sans doute, un bienfait ne se refuse jamais. » Nous fîmes asseoir la pauvre saltimbanque sur un banc de bois du côté de la muraille et prîmes place en face d'elle. Elle était gaie et se portait bien. Une série de jeunes personnes empanachées se relevaient l'une l'autre et promenaient au devant de la maison, comme pour la garder. Elles n'avaient pas l'air méchantes. En passant devant notre table, elles demandaient la permission de finir nos verres. Et l'aïeul, doucement attendri, leur disait « Faites !» Et elle ajoutait « Ce sont mes filles !» Les habitués du café nous regardaient d'un œil d'envie et d'admiration. Nous avions fait venir les vins les plus fins, les liqueurs les plus rares. L'eau-de-vie coûtait un sou le verre, le cognac 2 sous. Nous prenions du fine champagne à 15 centimes. Des curieuses venaient y tremper le doigt. « Vous avez donc bien de l'argent, » nous disait Malaga. « Oh, je vous préviens que ça vous coûtera 3 francs par tête, pas moins. » Il y eut aussi du cassis. La bonne vieille dodelinait de la tête en fredonnant des chansons salées. Elle allait dans le monde depuis l'âge de 12 ans. Lord Algerton en profita pour lui demander si dans le cours de sa vie galante, elle n'avait jamais entendu parler d'une certaine Digeance de Lyon enfin, il dit le mot. Madame Malaga lui fit répéter 2 fois. Oh, dit-elle, non, j'avais bien entendu. Ah, la Digeance de Lyon. Il faut la Digeance de Lyon à ces messieurs. Oh, je vous serai obligé de me laisser passer, je vous prie. Non, ne me retenez pas. Ce n'est pas que je sache rien, je vous prie de le croire, mais j'ai une petite affaire à terminer à côté. Vous voudrez bien m'excuser, sans adieu. La diligence, mazette. Et la vieille partit, trottant comme un vieux rat, sans qu'il fût possible de la rattraper. On ne sait pas à quel degré d'intensité peut arriver un désir tenace qui se heurte à de continuelles déceptions. La chose tournait chez le lord à l'idée fixe. Il en maigrissait visiblement. Sur cette entrefaite, nous reçûmes la visite de l'agent de Vidocq, dont l'œil en coulisses semblait annoncer qu'il apportait un avis important. Il finit par se faire payer grassement et finit par nous donner un simple renseignement. Il paraît que la ville de Berne, en dehors de son honorable population bernoise et bourgeoise, est connue pour être le bateau de fleurs le plus autorisé, je ne dirais pas de la Suisse, mais de l'Europe. Cette ville, que patronne des ours, est peuplée de colombes. Elle réunit les éléments de galanterie les plus disparates et les plus complets. Elle ne renferme pas seulement des maisons de plaisance, oasis où s'abrite le voyageur fatigué, mais de véritables musées ethnographiques vivants, où le beau sexe du monde entier est représenté par ses nationalités, ses costumes, coutumes, usages, erreurs, fantaisies, bizarreries, manies, curiosités et traditions d'alcôve. La science des siècles passés s'y transmet d'âge en âge, et l'on n'a jamais entendu dire que les mainteneuses de la science de l'amour aient été prises sans verre au pays de Guillaume Tell. Leur réputation valait du reste la peine d'être éprouvée, et moitié pour distraire Angleton, moitié entraînée par l'espérance, nous partîmes pour l'Helvétie. À défaut de rendre des vaches, me dit Milord avec un pénible sourire, nous y verrons au moins des vaches en rang. J'aime à croire qu'aucune épigramme ne se mêlait à ces paroles. Quand l'Académie de Berne, je parle de la principale, apprit que des voyageurs de distinction avaient franchi les Alpes pour recourir à ces lumières, il y eut comme un frémissement d'orgueil et d'émulation parmi ses membres les plus influents et ses plus célèbres adhérentes. L'hospitalité suisse sembla vouloir faire oublier l'hospitalité écossaise. La fête qui nous fut donnée à l'Ours Galant fit l'objet de conciliabules intimes entre Lord Algerton et la présidente de l'illustre compagnie. On ne me mit pas dans le secret, mais je devinais qu'on ferait bien des choses. En effet, ce banquet international dépassa toutes les prévisions par sa magnificence et son originalité. Nous ne saurions décrire par le menu cette soirée vertigineuse, mais sans nous faire taxer d'exagération. Les cinq parties du monde semblaient avoir député à Berne leur plus ravissante fille. C'étaient des indiennes cuivrées, polies comme des bronzes antiques, des femmes jaunes de visa pour, d'une teinte si éclatante qu'on se surprenait à cueillir des oranges sur elles, des malaises à la gorge dorée, des femmes lilas de la terre de feu, où les croisements d'anglais offrent à créer une nuance humaine pareille au fer rouge, refroidissant. Des filles de la Polynésie, vêtues de feuillages et de fleurs, qui semblaient échapper au paradis terrestre, des poupées violettes pâles du sud japonais, des Groenlandaises si blanches qu'elles en paraissaient bleues, des Chinoises de l'île Chin, dont la peau diaphane s'irise sous la lumière comme les bulles de savon des Africaines noires, comme l'ébène à la gorge conique, aux lèvres humides, cependant répandant cette odeur de catinga, tellement redoutable que l'homme qui s'en est enivré ne peut plus s'en passer, toutes les nuances produites par le mariage du noir et du blanc, les 64 gradations de couleurs décrites par l'auteur du Bukjargal, échelle de teintes vivantes, gamme de formes gracieuses, où toutes les races, tous les mélanges étaient représentés par leurs plus parfaits modèles. Des géantes patagones qui nous regardaient en baissant les yeux, d'adorables naines de Chine élevées dans des pots de porcelaine, boules souriantes qu'on ne savait pas où prendre, des pastours des montagnes bleues, tatoués des pieds à la tête, avec une telle palette qu'on s'éblouissait à les voir, et qu'on se perdait dans le labyrinthe dont elles étaient habillées. Et tout cela, je le déclare, tout cela n'était rien. Tout s'effaçait, tout disparaissait, quand un groupe d'Européennes traversait les salons comme une théorie de jeunes reines. Non, jamais je n'ai rien vu de pareil. La Suède et la Norvège avaient envoyé à la fête de frêles créatures, souples et mélancoliques, qui passaient comme un rayon de lune. Les Espagnols, fièrement cambrés, lançaient des éclairs à travers les branches de leur éventail. Les Russes, couvertes de fourrure, avaient des minois de chats effarés. Les Polonaises faisaient résonner leurs talons de cuivre. Les Autrichiennes ondulaient comme un blé caressant. Les Allemandes répétaient « Ne m'oubliez pas » à l'oreille de tout le monde. Les Italiennes aux teintes mates, aux yeux extravagants, portaient des poignards à leur jarretière et ne craignaient pas de les montrer. Les Anglaises, rêveuses, pétries de nacre et de neige, ne demandaient qu'à flirter. Une odalisque assise dans un coin avait l'air d'une tarte à la crème affaissée. Mais pourquoi le cacherais-je? Au moment où je perdais la tête dans l'élément féminin qui nous charmait de ses parfums et de ses ivresses, je sentis mon cœur battre et s'éveiller. Une jeune fille, la plus séduisante de toutes, s'était accrochée à mon bras. « Je suis des Batignolles, dit-elle, veux-tu m'aimer ?» Nous fûmes accueillis à l'Ours Galant par une députation de 13 Suissesses, d'une beauté vigoureuse et d'une grâce montagnarde. Elles se présentèrent au son du cor des Alpes, coiffées de longues tresses, pavoisées de rubans, ailées de gazes voltigeantes. Leurs jambes étaient superbement prises, et elles nous offrirent le vin d'honneur. Nous portâmes un toast à l'antique Helvétie. Elles nous firent raison en buvant dans leurs bottines, façon exquise de nous rappeler que notre vieux Basson Pierre avait bu dans sa botte à la santé de 13 cantons. Mon Anglais se francisa pour remercier ces dames et leur demander la permission de les rehausser. Et ce ne fut qu'après plusieurs heures de causerie et de promenade qu'on prit place autour d'une table où Lord Algerton et moi dûmes accepter les places d'honneur. On n'y avait admis que très peu de convives de notre sexe. Ils disparaissaient au milieu des femmes comme des cloportes égarées dans un massif de fleurs. Le couvert était somptueux. Il faut dire que l'Académie, pour donner à cette solennité un caractère vraiment grandiose, avait invité tout ce que Berne comptait de célébrités dans le livre d'or de la galanterie. La présidente de la réunion, fort belle matrone de 40 ans, que je ne compare pourtant pas aux matrones romaines, était placée en face de nous. Elle me parut préoccupée. On servit. Ce qui passa, ce qui se dissipa, ce qui se fondit, ce qui s'engloutit sur cette table des Danaïdes est impossible à détailler, car je n'ai pas envie d'allonger cette histoire jusqu'à demain. Ces anges cosmopolites avaient la voracité des harpies et buvaient comme des trous. Le premier service disparut comme un éclair, le second comme un grondement d'orage. Le troisième rompit la glace et l'on commença à briser celle de l'établissement. Le dessert s'annonçait comme une tempête. Je ne sais quelle flamme circulait dans l'air. Nous haletions dans une atmosphère échauffée par 1000 odeurs capiteuses, produites par les fruits mûrs qu'on écrasait sur la table, par les liqueurs qu'on y répandait, et plus encore, par les divines créatures qui s'étiraient languissamment et qui laissaient rayonner au dehors les moiteurs de leur solitude. C'étaient des miroitements d'épaules satinées, des envolées de cheveux épars, des croisements de regards incendiaires, et en même temps une clameur immense de notre pressée argentine vibrante, langoureuse, impérieuse. On se hélait, on s'appelait, on perdait la carte et le sens. Je me souviens que nous avions une mission à remplir. Quelques mots aigus que je sifflais à l'oreille du Lord le réveillèrent de l'enchantement dans lequel il était plongé. Il rassembla ses esprits, se leva chancelant et étendant la main comme le vieux Neptune au-dessus des flots irrités, il but aux femmes. On l'écouta, et après un toast à Vénus, Aphrodite, notre mère et notre amante, il déclara qu'il saluait cette noble académie bernoise, reine entre toutes, sacrée entre toutes, utile et agréable entre toutes. Il se dépeignit, semblable à César et Alexandre, venant consulter l'oracle infaillible de Delphes et demander à la Pythie le mot de l'énigme, le secret de l'arcane, la vérité sur cette mystérieuse diligence de Lyon qui était devenue l'intérêt et le cauchemar de sa vie. Le tumulte avait repris et les paroles de l'Anglais passèrent d'abord inaperçues. Peut-être couvrit-on sa voix par des hurrahs qui firent explosion au moment où il prononçait le mot dangereux. Cette idée singulière me traversa l'esprit en voyant la présidente qui, certainement elle, l'avait entendue, essayer de faire diversion et de changer la conversation d'une manière adroite. Mais quand le leur avait quelque chose dans la tête, il ne l'avait pas au talon. Il brisa son verre pour attirer l'attention et interpella directement son hôtesse. Celle-ci le regarda d'un œil irrité, et après un hoquet vulgaire, lui répondit « Mais tu m'ennuies, rions, amusons-nous, mais n'allons pas plus loin. J'ai bien voulu t'offrir un banquet, parce que c'est toi qui payes et que tu es un homme chic, mais il ne faut pas chercher midi à 14 heures. On m'a déjà dit que tu étais toqué. Bon, je te plains. Va chercher ta diligence où tu voudras et fous-nous la paix. J'ai dit, Milord, à votre santé. Cette sortie inattendue fut écoutée avec angoisse. Elle jurait tellement avec les hommages dont nous avions été l'objet que je m'en sentis déconcerté. Un froid se répandit dans l'assemblée. Après nous avoir reçus avec enthousiasme, on avait l'air de vouloir nous mettre à la porte. Lord Gerton, maîtrisant sa colère, demanda l'explication de ce discours si peu parlementaire. Il fit remarquer qu'il s'était exprimé avec délicatesse, avec décence, et qu'il avait droit à une réponse sérieuse. Il menaça d'ailleurs de tout chavirer si on éludait sa question. « Mais ta question, dit la présidente, qui avait toutes les familiarités, ta question, tu peux la mettre dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus. J'ajoute quoi dans un triste caractère? Comment on te reçoit dans un salon de femmes aimables et tu nous entretiens des visions d'un cerveau malade? Tu dois donc pas regarder autour de toi? Le grand Turc serait venu me voir que je ne l'aurais pas mieux accueilli, mais ouvre donc les yeux. Vois ces femmes. Elles ont un regard plein de flammes, un geste plein de caresses, la bouche ouverte au baiser. Tu as des chances pour être aimé, car elles sont ivres. Et au lieu de te rouler à leurs pieds et de faire des nœuds à leurs jarretières, tu nous fais des comptes à dormir de bois. Non, par exemple. Il n'en faut pas, zut, c'est trop anglais. Ce dernier mot me blessa et je demandai la parole. Tu l'auras pas, me répondit la terrible femme, et tu vas te tenir tranquille. J'interdis toute allusion aux bêtises de Milord. Algerton bondit comme un tigre et sauta de son fauteuil sur la table, ravageant les cristaux et la vaisselle. Je m'aperçus qu'il était hors de lui. « Je suis venu ici pour la diligence de Lyon, s'écria-t-il, et je veux la diligence de Lyon. Il est inutile de chercher à me faire prendre change. On m'a dit, c'est 1000 guinées. J'ai répondu, c'est bien, et j'ai payé. Maintenant, il me faut la diligence, ou je mets le feu à la maison, que personne ne sorte. » Évidemment, cette allocution manquait d'art. La perspective de l'incendie n'est pas faite pour retenir les gens, et la plupart de nos belles compagnes prirent la fuite en poussant des cris de pan. Mais la curiosité chez les autres l'emporta sur la frayeur. D'ailleurs, la présidente s'était simplement reculée de la table et paraissait décidée à tenir tête à l'ennemi. « À quoi cela sert-il » dit-elle en haussant les épaules. « Il y a une bonne raison pour qu'on ne vous montre pas votre diligence. C'est qu'elle n'existe pas. » J'avoue que je me sentis ébranlé par cette déclaration si nettement formulée. « Un autre !» fit le lord, qui suivait son idée avec une persistance d'ivrogne. « Vous ne m'y tenez pas. J'ai soupé hier avec Madame la baronne Wilhelmine de Osterholstein, qui mange des radis là-bas au bout de la table. Vous me l'aviez recommandé vous-même comme une personne hors ligne. » « Eh bien, fit la baronne mise en cause, est-ce que vous le regrettez, Milord ?»« Au contraire, répondit Algerton, vous avez été fort agréable, c'est une justice à vous rendre. Mais vous vous êtes saoulé comme un vieux cocher, la preuve que j'étais obligé de vous mettre au lit à coups de pied. Or, pendant que je veillais sur votre sommeil avec sollicitude, qu'avez-vous dit ?» Fritz, oh, c'est un nom que vous inventiez. Tu es un bon cœur, tu es mon ange gardien. Demande-moi ce que tu voudras, mais pour la diligence de Lyon, des nèfles. Je n'ai pas dit cela, cria Wilhelmine. Mais tu l'as dit, Pécor, fit le lord d'un accent péremptoire. Même que je t'ai tant et tant tourmenté que tu as fini par ajouter. Oh, tout ce que tu voudras demain, mais laisse-moi dormir. « Eh bien, fit Wilhelmine, blonde comme les blés, qu'est-ce que cela prouve? C'est comme quand un enfant demande la lune. On lui répond « Oui, mon minet, tu l'auras, mais on ne la lui donne pas. » « C'est un tort, baronne. »« Oh, si vous vouliez que la lune, » murmura-t-elle. Mais la présidente imposa silence à ce Colcetti et s'adressant alors à Algerton d'une voix incisive et froide. « Milord, » dit-elle, « vous vous trouvez ici dans une société calomniée mais loyale. Je ne ferai point mon éloge, mais sans que cela paraisse, je travaille peut-être mieux que beaucoup d'assemblées délibérantes à l'avènement, non pas de la fraternité, mais de la concorde universelle. Oh, je ne dis pas cela pour me glorifier, mais pour réclamer mes droits de citoyenne libre, payant patente et tout ce qui s'ensuit. Et un de ces droits, c'est d'être maîtresse chez moi. Si vous avez le courage de réclamer votre argent, je vous le rendrai. Mais dans tous les cas, la noce est finie. Et je ne veux pas de mon argent, cria le lord, et je n'ai que faire de votre noce. Je veux la diligence. Non ? Alors malheur à tous. » Et avant qu'on pût l'en empêcher, il lança un candélabre allumé sur un rideau de dentelle qui se couvrit de flammes. C'est à cela que l'ours galant dut son salut, car ses flammes rapides n'eurent pas le temps de les communiquer aux lourdes tentures de velours qu'elles roussirent seulement. Au cri d'alarme, au feu ! Un sauve-qui-peut général bouleversa l'assemblée. 10 grands drôles solides, sortant d'on ne sait d'où, se précipitèrent dans la salle du banquet pendant que les femmes disparaissaient par toutes les issues. Pour ma part, je me sentis saisi, enlacé, enlevé et transporté dans une salle voisine où des mains vigoureuses me retinrent immobile. Est-ce un guet-apens ? M'écriai-je. Non, me dit une douce voix, c'est un cas de simple défense. Soyez mon prisonnier sur parole et personne ne vous touchera. La voix qui me parlait ainsi appartenait à la jeune Française dont j'ai déjà dit quelques mots et qui avait affiché sa nationalité d'une façon si provocante. Je la regardais. Ah ! Si les Batignolles sont peuplées de pareilles beautés, elles n'ont rien à envier à la Grèce. Ma jolie compatriote avait à peine 18 ans, une figure d'ange avec l'œil d'un démon et un petit bonnet habitué à s'envoler sans doute. Je me sentis rassuré par son air souriant et j'étais tellement agacé de la contrainte où l'on me tenait que je jurais tout ce qu'elle voulut. Pour me laisser libre, elle m'emmena. Mon premier soin fut de m'informer du lord. « Oh, ne lui arrive à rien, » dit-elle, « et sa tentative d'incendie ne lui sera même pas reprochée. Vous le retrouverez demain à votre hôtel. » Mais dans ce moment, il est dans un tel état d'exaltation qui ne permet pas qu'on l'abandonne. Il sera traité doucement, je vous le promets. Croyez-vous que je puisse mentir ?« Non, » dis-je, « mais je voudrais le voir. » « Impossible, vous êtes mon prisonnier. » Il n'y avait rien à répondre. Mon aimable geôlière s'appelait Aglaé. Nous rentrâmes dans la salle du banquet, on desservait. Aglaé prit un bougeoir qu'elle alluma, passa son bras sous le mien et me dit « Par ici. » « Mais où me conduisez-vous ? » « Chez moi. » Il faut bien que je puisse veiller sur vous. Vous êtes une charmante enfant, dis-je, et je vous sais gré de m'avoir tiré des mains de ces grands escogriffes qui sont sans doute les protecteurs de la maison. Affaire de nationalité, dit-elle. Il faut bien qu'on se soutienne à l'étranger. Seulement, fis-je en montant l'escalier et en me chargeant du bougeoir, car j'estime qu'il faut être prévenant pour toutes les femmes. Seulement, voilà, je suis un homme sérieux. Ah, tant mieux, dit-elle. Et elle ajouta, après un moment de réflexion, vous en êtes bien sûr ? Mais très sûr, mon enfant. Je comprends que vous en doutiez en me voyant courir le monde à la suite de Lord Algerton. Cela vous a donné une assez triste opinion de moi. Oh non, ce n'est pas cela, dit-elle. C'est que je ne croyais pas qu'il y eût d'homme sérieux. Je suis bien aise que vous m'affirmiez le contraire. Entrez, c'est ici. Elle me poussa dans une petite chambre assez gentiment meublée, mais qui n'avait aucune ressemblance avec la chambre de Rigolette. Beaucoup de parfumerie, de romans et d'ustensiles de toilette, rien qui sentît le travail. Les femmes ont des intuitions bizarres. Elle devina ce qui me passait par la tête et répondit à ma pensée. Oh oui, je ne sais rien faire, dit-elle, rien que d'être jolie. Oh, ça durera tant que ça pourra. Tenez-vous très bien dans ce fauteuil. Je vais me coucher si ça ne vous fait rien. Et ne vous gênez pas, mon enfant. Je ne pus m'empêcher de la regarder pendant qu'elle s'occupait de sa toilette de nuit. Elle était vraiment très gracieuse. Elle se déshabillait avec une habile modestie, sans rien montrer, mais en laissant tout deviner. Les jolies Parisiennes sont jolies comme Psyché. Aglaé ne se pressait pas et me tenait sous le charme. Je lui racontais sommairement notre histoire, le caprice de Lord Algerton, dégénéré en frénésie, ma complaisance à l'accompagner, l'intérêt que je prenais à son expédition. Elle s'intéressa fort à mon récit. Comme elle dut s'absenter un instant, je pris un peu de sang-froid. Je soupçonnais la rusée fillette d'essayer de me troubler par ses petits manèges de coquetterie. Je crus à un piège et quand elle rentra, fraîche comme une rose, je lui demandai d'un accent bourru. Puis-je savoir combien de temps vous comptez me garder, mademoiselle? Mais, répondit-elle, c'est selon. Si vous vous ennuyez, pas longtemps. Il suffit que vous me promettiez de ne pas réclamer Lord Algerton et de partir sans faire de bruit. Parce que j'ai répondu de vous. Oh, c'est juste, je vous promets tout cela. Alors, vous n'avez qu'à sonner, on va vous reconduire. Vous êtes une aimable fille, dis-je en m'approchant de l'oreiller où reposait sa jeune tête. Au moins, mettez-moi à rançon. Vous le voulez? Oh, je vous en prie. Eh bien, vous m'enverrez demain un bouquet de fleurs d'oranger, puisque je suis en train de le gagner. Et des gants quand vous rentrerez à Paris. 6 et demi. On ne fait rien de supportable ici. Allez, sonnez donc. Oh, rien de presse si vous ne vous endormez pas. Il m'est venu tout à coup quelque chose à vous dire. Quoi? Si vous voulez que je parle, cachez vos bras blancs et fermez votre camisole. Cela me donne des distractions. Oui, fit-elle, les hommes sérieux sont comme cela. Enfin, dis-je à Aglaé, nous sommes français tous deux, par conséquent amis. Vous me l'avez prouvé. Il fait nuit, nous voilà enfermés, personne ne peut nous entendre. Je suis discret, pas méchant, vous n'en doutez pas, j'espère. Eh bien, que savez-vous, vous, Aglaé, de cette diligence de Lyon dont on fait tant d'histoires? Entre femmes, souvent, on s'avoue des choses qu'on ne dirait pas à un homme. N'en avez-vous jamais entendu parler? Si, dit-elle. Ah, vous le voyez bien. Mais je ne sais pas ce que c'est. M'en donnez-vous votre parole? Oh, ma parole, je ne la donne pas aussi facilement. Et puis, je ne suis sûr de rien. On se fait quelquefois des idées absurdes. J'ai les miennes, mais je ne veux pas les dire parce que vous vous moqueriez de moi. Non, ma chère Aglaé, je vous en prie. Vous voulez, dit-elle en s'asseyant sur son lit, que je conte des rêves de petite fille à un homme sérieux? Eh bien, m'écriai-je, je ne le suis plus, je ne le suis pas, je ne l'ai jamais été, je vous en demande pardon. Tout cela pour la diligence, fit-elle. Oui, pour la diligence, mais plus encore pour vos yeux, pour votre sourire, pour votre peignoir qui s'en va, pour ce doux accent railleur qui descendrait du ciel s'il ne venait de Montmartre, pour vos lèvres roses, pour la patrie, pour la France que je retrouve auprès de vous. Non, vous n'êtes pas sérieux du tout, dit Aglaé, j'aime autant que vous partiez. Vous croiriez ensuite que j'ai fait la savante pour vous retenir. Je n'y tiens pas. Oh, mais non, pas du tout. Je ne sais rien, non, rien de ce que je suppose. Des niaiseries, parce que je suis un peu sentimental. Allez-vous-en, croyez-moi. Non, parlez. Mais comment voulez-vous que je parle si vous m'embrassez tout le temps? Mais elle avait raison, je manquais de logique. Je ne pensais plus à la diligence. Ce fut Aglaé qui m'en fit souvenir le lendemain matin. Je ne veux pas, dit-elle, que vous m'accusiez de vous avoir trompé. J'aime encore mieux passer pour bébête. La diligence de Lyon, à mon avis, c'est d'être heureux. Je n'y vois pas d'autre malice. Elle avait peut-être raison. Mais Lord Algernon n'était pas homme à se contenter d'une pareille solution.